おかしいおかしいおかしい。
ゼロカットコングレベルから英語。
Bonsoir, c'est célébration du cinquantenaire de la RDC. Quel bilan et quelle perspective sur le plan de l'éducation et de la santé? Participe à cette émission professeur Pierre Kita, professeur des sciences de l'éducation dans plusieurs universités congolaises et étrangères. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Professeur Matiala Matolo, ancien ministre de l'Éducation et ancien conseiller principal du chef de l'État, il est professeur de psychologie clinique à l'Université pédagogique nationale et à l'Université protestante au Congo. Il est en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur.
Docteur Jean-Baptiste Songi, ancien ministre de la Santé, spécialiste en chirurgie et santé publique, il est secrétaire général du Front des Patriotes Congolais Parti du Travail. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais vos réactions nous parviennent déjà. Jacques de Matai Diouba Congo, dans les domaines de la santé et de l'éducation, le bilan est tout simplement pire, car les seules écoles, l'université et les seuls hôpitaux que le Congo possède aujourd'hui datent pour la plupart des cas de l'époque coloniale. En outre, la régression du niveau de la qualité de l'enseignement et des soins de santé est aujourd'hui sans commune mesure. Philippe Masika de Colisio Katanga, 50 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, beaucoup de Congolais n'ont pas accès aux soins médicaux et à la scolarisation par manque des moyens. À quand finalement la prise en charge gratuite des études primaires en RDC comme le prévoit l'actuelle constitution? Merci de nous suivre à Kisangani en province orientale sur 94.8 FM et partout dans le monde sur radiocafé.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Vous le savez, la RDC célèbre ses 50 ans d'indépendance ce 30 juin 2010. Le pays a connu une série d'événements sur le plan de l'éducation et de la santé qui ont influencé le bien-être des citoyens congolais. Quelle était la situation scolaire, éducationnelle et professionnelle au 30 juin 1960? Je vous propose d'écouter le père Martin Ekwa qui a posé les bases de l'éducation congolaise après le départ des Belges en 1960. Il est au micro de Georges Kamujova.
Le 30 juin 1960, la carte scolaire de province du Bandundu, du Bas-Congo, du Kasaï, du Katanga et de la ville de Kinshasa ne présentait plus guère d'espace inoccupée. À l'indépendance, sur l'ensemble du pays, pour une population de 15 millions d'habitants, 3 millions 40 enfants en âge de scolarité, il y avait 1 800 000 enfants qui étaient scolarisés. Soit 56% d'enfants scolarisés, et le pays se situait à peu près au niveau de l'Italie à l'époque, au niveau du Chili. Il devançait les pays même le plus développé tels que l'Espagne, la Yougoslavie, le Mexique et évidemment presque tous les pays de la région. En dépit de son avance au niveau de l'enseignement primaire sur beaucoup de pays de la région et même sur certains pays d'Europe et d'Amérique, le Congo ne disposait que d'une petite poignée d'universitaires, tous d'ailleurs très jeunes. Et quand on sort de l'université, on n'est pas encore très loin dans la vie. Donc les cadres pour promouvoir le développement du pays manquaient au Congo. Vous n'avez ni un commissaire de district, ni même un agent de territorial, ni un officier supérieur dans l'armée, ni un médecin, ni un avocat. Le pays est vide, vide complètement.
Professeur Masiala, vous venez de suivre le père Ekwa. Nous avons commencé par le bilan 50 ans après sur le plan de l'éducation et de la santé. Quel est votre bilan à vous, professeur? Commençons par les aspects positifs.
Oui, j'ai terminé l'école primaire le 30 juin 60 et j'ai évolué dans le système scolaire congolais avec une inscription pour la thèse doctorat en Suisse. Et ma thèse a porté justement sur l'analyse de la situation scolaire à Kinshasa et dans le Bas-Congo. Parce que le père Ekwa dit, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup d'efforts, notamment dans l'amélioration de programmes, dans l'amélioration de l'organisation même de l'éducation, avec l'ouverture de JSP et spécialement l'UPEN en 62, ça qui devait former des maîtres qualifiés, des instituteurs qualifiés pour l'enseignement secondaire. Et plus tard, il y a eu la création des ISP dans toutes les provinces, pratiquement avec la licence à l'IPEN, et on y venait par concours. Les écoles à l'époque étaient bien construites, chaque élève ou chaque étudiant avait une place, et les enseignants étaient ce qu'ils étaient. En 64-65, il y a eu une crise très très remarquable d'enseignants qualifiés, et l'État s'est organisé avec l'assistance technique d'importer ici des Haïtiens et d'autres, des Roumains, ainsi de suite, pour venir épauler le Congo qui n'avait pas suffisamment d'enseignants qualifiés. Il y a eu des réformes en 61, en 62. On a introduit le système de cycle d'orientation. Je suis le produit de la deuxième promotion. Les choses étaient assez claires et assez précises. Au niveau de l'université, la réforme de 71 qui a créé l'UNASA était malheureusement à la fois positive et en même temps négative. Positive, c'est parce qu'on a, pu détruire le mythe de diplôme obtenu dans un ou dans l'autre des campus de l'université qui existait à l'époque, le Vanium, le Kisangani et le Bombassi. Mais il y a eu une véritable désorganisation des systèmes académiques à travers du Congo en créant à l'Université nationale du Zaïre. Nous nous sommes retrouvés à la faculté de psychologie du centre d'éducation à Kisangani et sans laboratoire, sans bibliothèque attitrée, appropriée. Parce que le transfert des ouvrages, le transfert de matériel didactique, le transfert de tout ce qu'on devait utiliser n'était pas tout à fait fiable. Alors il y a eu une évolution qui a été constatée négative, alors je dois dire négative, en 93, lorsque nous sommes allés à la conférence nationale souveraine, le père Ekwa qui vient d'intervenir était le président de la commission éducation. Il a été recommandé qu'une réforme fondamentale soit diligentée dans le secteur de l'éducation. L'actuel président du Sénat, premier ministre à l'époque, a convoqué les états généraux de l'éducation. J'avais la responsabilité à l'époque de conduire ces états généraux de l'éducation. Et nous avons bâti un travail de titan que le professeur Manda Kizabi, actuellement notre représentant à l'UNESCO, dans le secteur de l'éducation, avait traduit chaque recommandation des états généraux en fiche technique.
Professeur Massiala.
Oui.
Alors, si on devrait, en une phrase, dresser un bilan 50 ans après dans les domaines de l'éducation et de la santé, qu'est-ce que vous diriez en un mot?
Alors, en éducation, il y a eu progrès. Il y a eu progrès et il y a eu baisse en même temps. Quand moi j'ai cité en 2003, j'ai compté dans les documents que j'ai publiés 295 établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Et j'ai lu dans le journal, le professeur Machar Koumamba, l'actuel ministre, a réuni 500 chefs d'établissement. Bon, ça montre bien qu'il y a eu un travail qui a été fait et que la pression démocratique a pu trouver un retentissement favorable au niveau de l'enseignement. Mais quand je reçois les étudiants en premier graduat qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas formuler une phrase, donc en nombre, oui, mais en qualité, il y a une baisse.
Merci, professeur. Permettez que je vous arrête à ce niveau. Vous êtes encore avec nous tout au long de cette émission. Professeur Pierre Kita, vous venez de suivre le professeur Massiala. Il y a eu progrès et puis baisse en même temps. Nous sommes encore au niveau des aspects positifs.
Oui, dresser le bilan de 50 ans pour un secteur aussi important que l'éducation, ce n'est pas si simple. Et je crois que mon collègue Mathiel a bien raison de dire qu'il y a des aspects positifs et malheureusement aussi des aspects négatifs. Et là, je le rejoins pour ne pas partager l'opinion qui a été exprimée par un premier intervenant qui a dit il n'y a que le bilan est pire. Non, il y a eu beaucoup d'éléments positifs. Quand on voit la situation qui a été celle de 1960 et l'évolution qui a suivi, on ne peut pas ne pas reconnaître que les premiers, je mets au pluriel, les premiers gouvernements de ce pays ont fait de gros efforts. Quelques exemples, tout simplement, le fait d'avoir propulsé l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui a marqué et qui continue à marquer. Le fait que les effectifs, comme l'a dit le Péricois, les effectifs ont augmenté de manière très significative, c'est aussi positif. Et même sur le plan de la qualité, on ne peut pas dire qu'il n'y a eu que la baisse de qualité. Au contraire, les premiers gouvernements de ce pays ont fait un effort de maîtriser un certain nombre de facteurs qui nous rendaient finalement maîtres de notre éducation. Je ne prends pour exemple que le secteur de l'édition scolaire. Depuis 1960, je peux dire jusque à peu près 1973-1975, nous étions devenus dans ce pays maîtres de notre édition scolaire. Les ouvrages, bien sûr, avec l'aide de la coopération internationale, en particulier tous les papiers qui nous venaient du Canada, mais les ouvrages, les manuels scolaires ont été rédigés par des professeurs œuvrant au Congo, ont été expérimentés au Congo avec des réalités congolaises. Avec des réalités congolaises, jusqu'à cette date que j'ai évoquée, 73-75, on peut dire que ça a été positif. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu la maîtrise de cet instrument important. Et nous sommes en train de compter, je dirais presque exclusivement, sur des dons qui nous viennent des pays ou qui rédigent des manuels sans nécessairement qu'ils soient adaptés à nos réalités, etc. Là, c'est effectivement, c'est devenu négatif. De la même manière, on doit reconnaître que sur le plan de la formation universitaire, le fait d'avoir brisé ce carcan qui réduisait notre enseignement supérieur aux trois seules universités, entre les mains finalement idéologiquement et même matériellement des étrangers, le fait d'avoir brisé ce carcan est un fait positif. Malheureusement, nous sommes allés peut-être un peu trop loin et à un moment donné, on a pensé que chaque village devait avoir une université, mais on n'a pas à avoir peur de ce phénomène parce que finalement, il y a comme une sorte de sélection naturelle qui est en train d'éliminer des éléments qui sont non viables. Donc, de manière générale, on doit dire qu'il y a eu une période de véritables avancées sur le plan de l'éducation. Malheureusement, on enregistre ces derniers temps une véritable régression et cela, c'est un mouvement qui est généralisé dans le secteur de l'éducation comme dans d'autres secteurs de la vie nationale.
Alors la régression, nous allons en parler tout à l'heure. Nous saluons Dr. Sonji. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ministre de la Santé, spécialiste en chirurgie et santé publique, secrétaire général du Front des Patriotes Congolais Parti du Travail. Vous venez de suivre les deux experts en éducation. Vous êtes médecin. Votre bilan, vous le prenez en gros, dans les sur le plan de l'éducation et de la santé en même temps, 50 ans après.
Oui, je pense que sur le plan de l'éducation, comme ils viennent de le dire, on a eu quand même des avancées. D'abord, il faut se souvenir que lorsque nous accédons à l'indépendance, le système colonial en était encore à essayer de mettre sur pied un système éducatif de masse, de manière à ce que tout ce qui est l'enseignement primaire puisse se généraliser dans la mesure du le mieux possible. Mais ce qui les allait faire après, nous ne le savons pas. Mais toujours est-il que, en 60, quand nous arrivons, effectivement, on a une scolarisation de niveau primaire qui est relativement importante, qui est très 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 forte, qui est même l'une des plus fortes probablement de toute l'Afrique noire.
Le père est quoi là, des comparables aux pays européens?
Absolument. Donc, on a assisté donc à une certaine rupture de ces dynamiques. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que lorsque justement l'indépendance arrive, Alors qu'ailleurs, on va sentir qu'il y a une rupture sur le plan de la réflexion, tout ce qu'il peut faire, mais sur le plan de l'éducation, on assiste au contraire à une réflexion pour d'abord essayer d'adapter le système éducatif, parce que l'éducation est un service pour résoudre les problèmes que les gens rencontrent. Or, comme vous le savez, notre système éducatif, surtout au niveau secondaire et surtout l'enseignement supérieur, avait tendance à se préoccuper des problèmes des équivalences avec le diplôme belge et peu sur leur utilité dans notre propre pays. Et que donc la réforme qui a été faite a été une réponse par rapport à cette incohérence. Et je pense qu'on va assister pendant les premières années à cette réflexion globale, mais qui va s'accompagner à une volonté politique, puisque durant ces années-là, les premières années en tout cas, le budget de l'État oscille entre 25 et 30% du budget de l'État. Et on va voir que le système éducatif, effectivement, va véritablement, nous sommes d'ailleurs le produit de ce système-là. Et maintenant, l'étape suivante, je pense, qui se posait, c'est surtout le système universitaire, parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, comme on vient de le dire ici, non universitaire, on va d'abord accorder beaucoup d'importance à la formation des formateurs. À la formation des formateurs pour l'enseignement, justement, qui venait d'être réformé. Et à ce point de vue-là, on ne peut pas dire que ce soit un échec. C'est quelque chose de tout à fait positif, mais l'élan ne s'est pas poursuivi. Il a été rompu pour toute une série de raisons. Mais par contre, en ce qui concerne la réforme du système de l'enseignement universitaire, cela a été problématique parce que rappelez-vous que nous qui avions été à l'Ovanium, la marche du 4 juin 1969 avait comme sous-bassement justement la réflexion pour que le système éducatif, système de l'enseignement supérieur, n'est pas comme unique objectif les équivalences entre le diplôme belge et le diplôme congolais, mais qu'il soit mieux adapté aux réalités de notre pays. Et c'est le fameux colloque de Goma sur lequel les étudiants ont eu à discuter pour justement qu'on essaie d'adapter cette réforme-là, malheureusement. Et c'est suite au refus de M. Mobutu d'appliquer ces réflexions pourtant pertinentes que vont surgir, disons, les manifestations du 4 juin, qui, en fait, loin d'être un conflit simplement d'étudiants, mais c'était en réalité le débat sur l'avenir du système éducatif. Donc, sur ce plan, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, si vous comparez en 60, que ce soit sur le plan du corps médical, que ce soit sur le plan d'intellectuel, le Congo a plus d'intellectuels et sur base des nombres d'intellectuels qu'il a, le Congo ne devrait pas se trouver dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Et donc là, il y a un problème, des problèmes du truc. Que a-t-on fait de tous ces gens qui ont été formés? Et ça, c'est la véritable problème, c'est la véritable question.
Alors, il y a quel bilan dressé à 50 ans après dans les domaines de l'éducation et de la santé? Cette question intéresse aussi les Congolais. Écoutons certains d'entre eux qui ont été interrogés par nos collègues du réseau Okapi dans les provinces du Bandundu, Sud Kivu, province orientale et Kassai-Occidental.
Docteur vétérinaire Ntuntulu, ville d'Équipe, sur le plan sanitaire, le bilan est positif depuis les années 60. Il y avait beaucoup de maladies qui n'étaient pas encore décelées, mais à l'avènement de l'indépendance, avec les universitaires, avec les recherches, il y a eu jugulation de plusieurs pathologies.
Papika Jabika, Bukavu, lorsqu'on parle de la santé, on voit l'alimentation, on voit l'habillement, on voit les logements et on voit les soins médicaux. Et lorsqu'on essaie un peu de voir ces on peut se permettre de dire que l'État, n'est-ce pas, a échoué. Nous n'avons pas vu une politique mise en place. Pour ce qui est de l'éducation, là, n'en parlons même pas. Nous voyons que les contenus de la Constitution et la pratique du terrain sont vraiment diamétralement opposés.
Moi, je suis habitant de Kisangani. Sur le plan éducation, d'abord, l'enseignant est resté le même, avec un salaire modique et qui n'arrive pas au moment opportun. Les enseignants commencent à demander des unités, des rations aux enfants, des écoles qui n'ont même pas de bord. Les hôpitaux ne sont pas réhabilités.
Boniface Beyanindou, inspecteur d'enseignement, assistant provincial au CECOP d'Afrique occidentale 1. Le secteur de la santé, c'est un secteur qui a la vie au bien-être de la population et de l'homme lui-même. Comme le secteur de l'enseignement, est un fait, il y a certaines maladies qui ont été longtemps éradiquées, mais commencent à réapparaître compte tenu de la pauvreté dans laquelle vivent les populations.
Professeur Massiala, vous venez de suivre ces quelques auditeurs interrogés par nos confrères de Radio Capi. Un moment à présent sur le plan de la santé, vous venez de suivre, beaucoup d'entre eux ont reconnu que grâce à l'instruction, il y a eu des cadres congolais et des maladies ont été éradiquées, professeur.
Oui. J'ai suivi des amis et des collègues qui se sont exprimés. Ils sont positifs en ce qui concerne les qualifications, même les certifications de l'intellectuel congolais et principalement dans le secteur de la santé. J'étais malade au mois d'octobre et novembre. Je refusais d'aller en dehors du Congo parce que je dois avoir confiance au projet des universités où nous avons nous tous. Et je dois commencer à avoir confiance aux structures qui sont organisées ici. Ils sont capables de beaucoup de choses. Peut-être qu'il manque la haute technologie pour faire des opérations in vitro, in vivo, ou je ne sais pas. Mais l'expertise, nous l'avons, effectivement. Quand je vais en Afrique du Sud, le gros de l'eau des médecins et des juristes, mais c'est le produit de nos instituts supérieurs et de nos universités ici. Mais il y a un détail, je crois que le docteur Sondi qui a essayé de poser la question dans laquelle il faut nécessairement que nous trouvions un début de réponse, peut-être les années qui viennent après ces 50 ans qui constituent un jalon pour nous. Qu'est-ce que nous faisons du produit des écoles et des universités? Dans quelles conditions on les met pour que tout ce qu'ils ont reçu et tout ce qu'ils essayent de constituer puisse être réellement utile dans le pays ici. Alors il y a trois missions que j'ai toujours appelées de l'université. L'enseignement, la recherche et la participation à l'amélioration de la cité. Je crois que la recherche s'est tout à fait estompée depuis longtemps. Ça peut être dans le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, comme en agriculture, en agronomie. Donc il y a un problème de l'inadéquation entre les institutions qui forment et les structures qui devraient utiliser ce produit. Il y a un dialogue, je pense, que nous devons nécessairement établir et nous pourrons réajuster la barre qui est un peu courbée comme dans l'hymne national, dressant nos fonds longtemps courbés. Donc les fonds, nous les avons, mais il faut le redresser pour que nous puissions regarder de l'avant et que le produit des universités puisse être reconnu, être mis au service dans la nation sans que nous puissions continuer à vivre les hésitations, les doutes et peut-être une expertise, et pourtant, c'est vraiment une expertise fiable.
Professeur Massiala, vous évoquez la recherche qui n'est plus prise en compte, mais à quel moment l'éducation en RDC a commencé sa descente aux enfers?
Moi, j'ai indiqué pour l'enseignement supérieur, d'abord l'enseignement primaire secondaire, c'est lorsqu'il y a eu l'étatisation en 1974. L'État a repris toutes les écoles. Et vous savez que les premières écoles, c'est des écoles confessionnelles. Ce sont les catholiques et les protestants qui ont mis en place des écoles vraiment de qualité. Et nous sommes le produit de ces écoles. Et quand l'État a repris, il y a eu une désorganisation. Pas seulement la désorganisation physique des bâtiments, mais il y a eu aussi le mixage et l'affectation un peu à tous azimuts des directeurs, de préfets, et ainsi de suite. Alors là, commençaient les difficultés. Et nous sommes venus un peu plus tard avec l'inflation, c'est pas si c'est l'inflation ou plutôt la volonté politique, parce qu'il y a un acte qu'on appelle acte de politique éducative qui commençait à baisser, comme si l'État commençait à se désintéresser. Je ne vais pas donner les dates exactes, mais si j'avais la possibilité de consulter les documents, je pourrais vous dire à quel moment il y a eu baisse de participation financière de l'État à l'art éducatif.
Merci.
Oui.
Merci, professeur Pierre Kita. Un mot sur la santé, hein, il y a une période où les Sud-Africains venaient se faire soigner ici.
C'est vrai. Je dois d'abord faire remarquer que finalement, toutes les interventions jusqu'à présent montrent que nous avons eu une période de
gloire,
de grandes avancées. Malheureusement, comme le disait le docteur Sondi, cette dynamique a été cassée à un moment donné. Et le collègue Martial qui fait allusion d'ailleurs à l'étatisation des établissements d'enseignement, eh bien, je veux simplement dire que ceci s'inscrivait déjà dans la mouvance de ce qui a été la réorganisation. Et on doit dire que dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'économie, la descente aux enfers, pour reprendre votre expression, a débuté là. Et malheureusement, cette pente-là, dans laquelle nous avons commencé à glisser, elle ne s'est toujours pas arrêtée, même jusqu'aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, le docteur Sondi est mieux placé pour moi pour en parler. Je crois qu'effectivement, le fait de l'indépendance n'a pas sonné le glas de notre système sanitaire. Au contraire, les structures hospitalières ont continué à bien fonctionner malgré les remous de cette époque-là. Les cliniques universitaires de Kinshasa ont continué à constituer une référence pour, je ne dirais pas pour l'ensemble de l'Afrique, ça serait peut-être ambitieux, mais en tout cas pour au moins la sous-région. Mais à partir du moment où, petit à petit, l'État se désintéresse, où l'État tout simplement laisse tomber, naturellement, on connaît la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans le secteur de la santé. Tout le monde l'a reconnu ici, beaucoup de maladies avaient été éradiquées. Malheureusement, depuis une vingtaine d'années, ces mêmes maladies qui étaient éradiquées réapparaissent progressivement. Et elles réapparaissent progressivement parce que le pouvoir public ne joue pas le rôle qui est le sien dans ce secteur.
Deux auditeurs, professeur Blanchard de Mbandaka à l'Équateur, le bilan de l'éducation et de la santé 50 ans après l'indépendance n'est même pas à chercher sur Internet au motif qu'il est largement négatif, surtout celui de l'éducation à cause des mauvaises conditions de vie des enseignants, la corruption qui a élu domicile et aussi du mauvais recrutement du corps enseignant qui est à la base de cet échec. Et je me demande quel type d'intellectuel nous aurons demain pour diriger ce pays. Raymond de Kinshasa, le bilan de 50 ans est largement négatif, bien que le nombre d'écoles, des instituts supérieurs et des universités ait augmenté numériquement, la qualité de l'enseignement et le niveau des apprenants a pris le sens contraire. Il en est de même pour les hôpitaux qui ne sont pas équipés et la qualité de soins qui laisse à désirer dans la plupart des hôpitaux de l'État, professeur.
C'est une analyse qui est tout à fait objective et qui, pour à bien des égards, reflète la réalité. Seulement, ce que je regretterais, c'est que l'on généralise cela à l'ensemble de la période des 50 ans. Il est vrai que les conditions dans lesquelles l'enseignement fonctionne aujourd'hui, le docteur Sondi a fait allusion au budget. Il y a eu une période où le budget de l'éducation nageait autour de entre 25 et 30% du budget national. Depuis une quinzaine d'années, ce budget atteint à peine 1%. Il y a même quelques années où le budget était de 0, etc. Comment voulez-vous que l'on puisse travailler dans ces conditions? Les conditions des professeurs, je me souviens encore que juste à la veille de la création de l'UNASA, l'élite intellectuelle de ce pays se bousculait aux portes de l'université pour être engagée comme assistant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, par contre, le bateau, on est en train de le fouiller. Tout le monde veut quitter cet enseignement parce que les conditions sont devenues inhumaines. Et c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui expliquent finalement cette régression que nous enregistrons, et je le répète, depuis une vingtaine, en tout cas, pas depuis le début de notre indépendance, mais depuis une vingtaine, une trentaine d'années.
Voilà, docteur Sonji, vous êtes mieux placé pour parler de la santé, parce que vous avez même aussi été ministre de la Santé. On se souvient qu'à un moment, il y a des événements politiques tels que les pillages qui ont contribué à mettre à sac les hôpitaux et les infrastructures de recherche que nous avions à travers le pays, docteur.
Oui, d'abord pour bien comprendre la situation médicale, l'organisation médico-sanitaire, vous connaissez là, je pense qu'il faut faire un peu un aperçu un peu historique. Il faut se rappeler que la première pénétration médicale est liée à l'action coloniale. Parce que lorsque la colonisation, les colonisateurs sont arrivés ici, un grand nombre d'entre eux mouraient pour des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Alors, l'aventure coloniale était menacée en fait par ces maladies inconnues, et pour pérenniser, pour faire survivre l'expérience coloniale, il aura fallu s'occuper de ces communes de santé. Donc c'est le début en fait de la pénétration médicale, c'est-à-dire comment résoudre les problèmes de santé qui étaient jusqu'alors inconnus par les colons, ou qu'il fallait résoudre, sans lesquels la colonisation était impossible. Donc c'est ça qui va mettre sur pied toute une série, et l'une des maladies qui va faire énormément de morts, c'est la maladie du sommeil, qu'on ne connaissait pas. On appelait la fièvre africaine, on ne connaissait absolument rien de cette maladie-là. Et c'est ça qui va amener un petit peu dans un contexte lié. D'abord, un personnel relativement limité, parce que les premiers médecins vont apparaître, en fait, dans notre pays, le long de la construction de chemin de fer du Bas-Congo, Kinshasa, Matadi. Et ces médecins, donc, auront comme rôle, en fait, d'essayer de s'occuper de tout ce personnel-là, mais dans un contexte de maladies inconnues. Et puis, finalement, ils vont découvrir la maladie du sommeil. On va lui accorder beaucoup de causes, beaucoup de... Et il n'y avait aucun traitement. Et les gens vont s'y mettre. D'ailleurs, c'est le début des dispensaires. Les dispensaires sont nés du fait que on voyait beaucoup de gens qui présentaient les mêmes symptômes face à un personnel relativement réduit. On va essayer de les regrouper dans ce qu'on appelle les lazarets, qui deviendront d'ailleurs ultérieurement des dispensaires, de manière n'ayant qu'un seul médecin, mais avec un traitement standardisé qui serait exécuté par un personnel insuffisamment, qu'on ne pouvait pas former autrement. Et c'est ça le début de dispensaire. Donc, au début, la pénétration médicale avait été parallèle à la pénétration coloniale. Mais le souci de s'occuper véritablement des Congolais, bien qu'elle avait commencé déjà dans les années 1933 avec la création de la Coréenne, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Comme récompense par rapport à l'effort de guerre, c'est le gouverneur Ekmans, M. Pétillon, qui vont lancer le plan décennal de développement. Et dans ce plan de décennal de développement, on va mettre en place le plan, sur le plan médical, le plan Van Oost-Doren, qui va essayer de mettre dans tous les chefs-lieux de territoire un centre médico-hospitalier. Et puis, il y aura un établissement des centres de santé de telle manière qu'aucun Congolais ne soit à plus de 15 km d'un centre de santé. Mais on va se rendre compte que cette organisation était fondée presque essentiellement sur la médecine curative. Et en 60, lorsque il y a un exode massif de tout le personnel, le système va s'effondrer au point que ne resteront plus que pratiquement les formations à caractère, disons, confessionnel, celles qui vont essayer de tenir tant bien que mal. Et cet effondrement, contrairement au système éducatif qui va essayer de repenser le système dès le début, c'est seulement vers les années 70-75 qu'on tira la leçon d'une pénurie du personnel, parce qu'il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas beaucoup de personnel médical, et que le fait de fonder toute l'action médicale uniquement sur le curatif, ça a été inopérant. Et les expériences menées à Kasongo, à Bwamanda, à Kitantu et à Vanga vont amener en fait la formulation associée aux médecins sans de pieds nus, le concept de soins de santé primaire, qui met plus l'homme comme étant d'abord l'agent de premier de santé, étant l'homme et non pas l'agent de santé.
Voilà, deuxième partie de cette émission, que faut-il pour améliorer les domaines de l'éducation et de la santé? Écoutons les propositions de quelques Congolais interrogés une fois de plus par nos collègues du réseau Okapi dans les provinces du Bandundu, Sud-Kivu, province orientale et Kassai-Occidentale.
Jeff Kousoukouassa, Falkoui. Si donc il y a une amélioration à proposer dans les secteurs de l'éducation et de la santé, c'est au niveau de la rigueur dans la formation, rigueur dans ce qu'on ouvre comme école, dans ce qu'on ouvre comme centre de santé, et à mon humble avis, tout cela passe par un changement de mentalité.
C'est Delphine Katabécha de Bukavu. Les autorités doivent faire en sorte qu'il y ait de la réforme même dans les systèmes éducatifs congolais afin que les enfants puissent accéder à une bonne éducation et sur le plan de la santé.
Boniface Beyanindou, dans la province du Kasaï occidental, il faudrait d'abord un budget conséquent pour améliorer les conditions de travail des enseignants, pour construire, équiper, réhabiliter les infrastructures scolaires. Deuxième perspective, il faudrait que l'État aussi s'implique dans la modernisation du secteur médical, mais surtout dans l'équipement et dans la construction de nouveaux centres hospitaliers et appuis à la santé sur le plan de la maternité, sur le plan des autres maladies.
Habitants de Kisangani, quoi que le gouvernement doit prendre toutes ses dispositions, des mesures coercitives pour mettre fin à cette récréation qui ne fait que perdurer.
J'habite Kisangani, je crois qu'il faut coupler les contrôles parlementaires au contrôle citoyen. C'est-à-dire que les députés provinciaux doivent faire pression au niveau du gouvernement pour matérialiser l'exécution de tout ce qui est prévu comme infrastructure et autres.
Professeur Kita, vous avez suivi les propositions de ces auditeurs, ça va un peu dans tous les sens. Quelles sont vos propositions pour améliorer les domaines de l'éducation et de la santé?
Les propositions qui viennent d'être évoquées là, naturellement, on ne peut que les admettre. C'est vrai qu'il faut de la rigueur, qu'il faut un budget conséquent, qu'il faut un effort de modernisation, et en particulier dans le secteur médical, comme ils l'ont dit. Tout cela est vrai. Mais je crois que ce qui manque le plus dans notre pays, et pour les années qui vont venir, il faudrait d'abord qu'il y ait une vision claire de la part de la classe dirigeante de ce que l'on veut faire. Quelqu'un dit qu'il faut une réforme, mais nous allons de réforme en réforme, qui ne nous mène pratiquement nulle part. Mais on n'a pas encore vu une vision qui soit claire. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut du système éducatif pour les Congos de l'an 2030?
Une volonté politique manifeste.
Pas seulement une volonté politique, mais une vision, c'est-à-dire un projet. Et à ma connaissance, peut-être je suis mal informé, mais je n'ai pas encore vu ce projet qui décrit ce que l'on veut faire du Congo d'ici 30 ans, d'ici 40 ans. Or, ce que le Congo sera dans les années 2030, 2040, c'est maintenant qu'il faut y penser. Mais si on n'y pense pas, et j'ai l'impression qu'on n'y pense pas, on va aller comme ça de réforme à réforme et des actions par à coup, et cela, malheureusement, ne garantit pas une véritable amélioration de la situation.
Professeur Massiala, vous venez de suivre le professeur Kita qui parle d'un manque de vision claire, soutenu par une volonté politique manifeste. Qu'en faut-il pour vous pour qu'on améliore ces deux secteurs, l'éducation et la santé?
Bon, j'ai la chance d'être à la fois enseignant et un penseur dans le secteur éducatif et quelqu'un qui a joué par moment des rôles de haut niveau. Ce que dit le professeur Kita est vrai. Il faut une vision. Il faut un projet. Parce que l'acte éducatif est un acte politique. On ne peut pas construire une école sans que l'État et la nation se fassent une certaine idée de quelle société ils veulent construire. Parce que la société va pouvoir dicter le type d'école, va pouvoir dicter le type de programme, va pouvoir dicter le type de méthode qu'on va utiliser. Il y a un projet de loi cadre qui venait d'être déposé au Parlement. Je ne sais pas si combien de citoyens ont pu lire le projet pour amener certaines réflexions ou certaines observations. Est-ce que le projet se fait-il accompagner de la politique éducative ou seulement la loi CARE? Donc il y a un certain nombre de questions liées à la norme. Il faut que la norme soit sécrétée, cette norme acquiert la confiance de tout le monde, cette norme soit respectée et exécutée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est
La question aujourd'hui qui se pose sur le plan de la formation du formateur des formateurs. Quand je vais à l'UPEL, qui est devenu université, alors qu'il était un institut supérieur pour former des cadres dans le secteur de l'éducation, les auditoires ne sont pas tout à fait ceux qui devaient former des hommes et des femmes pour aller transmettre des valeurs. Pas seulement des valeurs intellectuelles, mais des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs physiques, enfin, tout ce qui concerne l'être humain comme une composition du corps, de l'esprit, de l'âme, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez? Donc, il y a un déficit à la fois au niveau de l'application de la norme, de la connaissance même de la norme, de son existence, de la formation des formateurs et des infrastructures dans lesquelles on forme.
Merci, professeur. Docteur Sondi, déficit de valeur, beaucoup d'intellectuels, mais il y a une forte corruption. Il y a par exemple le jeune de Kinshasa qui dit à l'indépendance, nous n'avions pas des cadres universitaires dans le domaine de l'éducation et de la santé, mais en 2010, nous avons un nombre important d'universitaires et de médecins, mais rien ne va. Comment expliquer cela? Ne faut-il pas travailler profondément l'homme congolais?
Mais comme on vient de le dire ici, d'abord, l'éducation et la santé ne sont pas des services qui produisent dans l'immédiat. Mais les sociétés investissent dans la santé et dans l'éducation, dont les résultats sont à venir ultérieurement. Donc, aujourd'hui, un pays pauvre ne peut pas avoir une éducation et une santé de qualité. J'aimerais rappeler que en 60, quand vous regardez la production globale, le PIB de 1960, il est le même que celui d'aujourd'hui. Et en 60, nous étions 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 65 millions d'habitants. Donc, quand vous répartissez la même quantité de richesse à 65 millions d'habitants, vous verrez que nous sommes appauvris 5 fois plus aussi. Alors, forcément, parce que quand le système de santé fonctionnait bien à l'époque, dans les années 50-58, eh bien, le budget que l'État y consacrait était de 12%. C'était même supérieur à celui de l'éducation nationale. Donc, aujourd'hui, même si on affectait 12% à la santé, d'un budget qui est resté le même pour s'occuper des 65 millions d'habitants, on y pourra. Donc, la première des choses, je pense, et là, je rejoins ce que le professeur a dit, la santé faisant partie, comme l'éducation faisant partie d'un tout global, quel est le projet de société que nous pouvons projeter pour notre pays? Que voulons-nous faire de notre pays de manière à ce que cette réflexion globale qui implique la production, et vous verrez très bien que la production, pour que les gens produisent, ils doivent être en bonne santé, et pour qu'ils produisent très bien aussi, ils doivent savoir la technique de production. Donc tout cela est
lié, ambassadeur.
La conclusion, c'est que notre pays, aujourd'hui, quand nous arrivons 5 ans, de la faillite que nous connaissons est d'abord un déficit de réflexion. Quand j'ai eu la chance de lire un gros livre de Russie de M. Louganeur, le général Pétillon, la première chose qui frappe, c'est que les colons, ceux qui dirigeaient la colonie, réfléchissaient très sérieusement sur ce que le pays devenait. Et depuis qu'on a rompu, les réflexions sont devenues parcellaires et non pas globales, eh bien, le pays est en crise. Donc, après 50, je pense qu'il faut que la réflexion reprenne la place qu'elle a perdue depuis 50 ans.
Professeur, quitte à conclusion.
Je ne peux que partager totalement la conclusion du docteur Sondi. C'est vrai que cet aspect de la réflexion a manqué. Et malheureusement, on ne voit pas les prémices de redémarrage. Et on devra passer par là. Il faut qu'on ait une vision globale, intégrée et intégrale de la société qu'on veut créer.
Professeur Massiala, conclusion.
L'éducation comme la santé sont des secteurs clés du développement d'un pays. Comme le docteur Sange l'a dit, l'homme qui doit produire, l'homme qui doit créer, l'homme qui doit réfléchir, il faut qu'il ait une bonne santé, mais il faut ajouter l'agriculture. Il faut qu'il mange, vous voyez, pour qu'il soit en forme, Et l'éducation comme la santé, comme d'autres secteurs vitaux de notre société, ont besoin d'une réflexion profonde. Donc là, on dit, et je partage fondamentalement sa pensée.
Merci, professeur. Désolé de vous couper l'émission plus à sa fin. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bon, suite au programme sur Radio Capi. Thank you.